création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. On manipule des bobines, on apprend la chimie et les collants. La ferrite et les sels d'argent nous ont irradiés. On est rétifs. Ils sont de plus en plus nombreux parmi nous à être nés avec le digital et à s'en être détournés. Avec nos doigts, nous touchons la fixation magnétique ou argentique. C'est de cette déclaration que sont nées deux créations en air que nous diffusons ce soir et demain. Nous sommes en direct au 8e étage de la Maison de la Radio et devant nous, un monde magnétique. Bonsoir Arthur Bégilette. Alors pourquoi vous avez voulu engager votre corps dans le combat radiophonique avec des bandes magnétiques ?
Bonsoir Irène. Je crois que pour moi c'était une sorte d'initiation. Quelque chose d'abord de très personnel. Les créations en air précédentes, la dernière, étaient presque le summum de ce qui se fait aujourd'hui en radio, en son binaural, donc en son spatialisé. Et là, je me suis dit, j'avais envie d'une initiation à l'art de faire la radio d'il y a avant, d'il y a longtemps, d'il y a 20 ans presque maintenant. Ça s'est arrêté il y a 20 ans déjà. Et je voulais aussi que les auditeurs puissent suivre aussi cette initiation, en fait.
Alors concrètement, ça a voulu dire que vous avez entraîné toute une équipe avec un matériel dont on ne se servait plus, avec des bandes magnétiques et avec une façon même peut-être de travailler différente, parce que les bandes magnétiques, y avait dans mon souvenir, les petites boîtes d'un quart d'heure, celles d'une demi-heure, je ne sais pas comment vous avez travaillé.
Oui, c'est ça, on a un Nagra, Nagra, c'est cette machine mythique suisse, et effectivement il y avait un quart d'heure ou une demi-heure, et ça veut dire que il faut peut-être beaucoup plus penser avant d'enregistrer, ou en tout cas se dire que quand on enregistre, quelque chose va se passer et on a intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. Déjà ça, et puis ensuite on a même monté sur bande, donc on a fait monter à la radio un studio, le 115, uniquement avec des magnétophones à bande, 5 magnétos pour le mixage, et puis on a monté avec les ciseaux, la réglette que vous avez connue.
Alors est-ce que ce n'est pas tout un luxe déployé pour finalement, qu'est-ce qu'on va entendre ? Est-ce qu'il va y avoir une différence ? Je pose la question et je suis persuadée que oui, hein. Mais une différence dans ce qui va être donné à l'oreille ?
C'est ce que disent la plupart toutes les personnes que j'ai rencontrées pour ces 2 heures d'émission aujourd'hui et demain. Elles disent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de la magie, qu'il y a quelque chose qu'on peut pas vraiment définir, à la fois dans, par exemple, quand un groupe de musique joue, il se passe quelque chose de particulier quand il enregistre sur des bandes, ou quand on fait un film en Super 8 ou en 16 mm, il se passe aussi quelque chose, la performance est différente. Et sur le son, je pense que, en tout cas, les gens qui ont écouté la radio il y a longtemps se rendront compte qu'il y a bien quelque chose comme il y a à l'époque.
Création On Air par Arthur Bégilette, Marie-Laure Ciboulet, Claude Nior, Pierrick Monsigny, Alain Joubert.
Oui, bonjour. Je vais faire un voyage en voiture et j'ai un magnétophone à cassette dans la voiture. Est-ce que vous avez des cassettes ?
Des petites cassettes ?
Oui.
Est-ce qu'on en a des petites cassettes audio ? Est-ce que vous en avez une ?
Magnétisé. Une apologie sonore des fous de la bande, de l'argentique et du celluloïde.
Des cassettes enregistrées déjà, avec de la musique.
Ouais, on n'en a pas beaucoup, hein. Voilà, on n'en a pas beaucoup.
Et vous avez quoi comme titre, vous savez ?
Ah non, je ne sais pas.
D'accord, merci.
Je vous en prie, au revoir.
Arthur Bégilette, Marie-Laure Ciboulet, Claude Nior, Alain Joubert.
Allô, Emmaïs, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, j'ai fait un road trip en voiture et j'ai qu'un magnétophone à cassette. Est-ce que vous avez des cassettes audio ?
Vous cherchez un magnétophone à cassette ou...
Non, je cherche des cassettes.
Des cassettes ?
Oui. Oui.
Un magnétophone ou magnétoscope ?
Non, des cassettes audio. Les...
Audio ?
Oui.
On avait une boîte entière, là. Je ne suis pas sûr de la garder.
D'accord.
Je vais passer voir, alors. Hein.
D'accord. Je vais faire ça, là.
Je vais la mettre de côté, si on a. Hein.
D'accord.
Okay. Ok, merci.
Merci.
Enregistré en analogique sur Nagra 4S et E.
Oui, bonjour. Je vais faire un road trip en voiture et j'ai qu'un magnétophone à cassette.
Oui.
Est-ce que vous avez...
Oui, on a des cassettes, oui.
Ah, c'est génial. Et est-ce que vous avez les Cramps par hasard?
Je peux pas vous dire, j'ai pas le stock, mais on a du pop, on a du rock, on a de la funk, un peu de reggae, un peu de musique française, enfin un peu de tout.
D'accord.
Après, on a, c'est plutôt des fins de
et peu, mixé dire, sur 5 magnétophones Digitech pas, hein. Via une console Studer.
Donc, je vais chercher les ciseaux, gauche-droite, voilà. Ça a l'air de bien fonctionner, oui, c'est parfait. Il y a du niveau, il y en a suffisamment. On est bien flat, normal. Bon, ben voilà, lui il tourne, il n'y a pas de problème.
Alors, ciseaux, réglettes.
Ciseaux, réglettes, ouais, collant j'en ai, hein, si t'en as pas assez.
Moi j'en ai plus.
Moi j'en ai encore plein dans mon... Dans ma mallette. Ça, c'est pas un problème.
Voilà.
Ok. Donc, on utilise le 5 en enregistrement. Et les, bah, les 1, 2, 3, 4 fonctionnent.
1, 2, 3, 4.
Ils sont bien
identiques,
tous testés.
Ok.
Alors. Bon, bah, il est déjà.
Prêt pour le départ ?
On va prendre la voiture alors.
Ready ?
Ready.
Mon père est mort l'an passé, il a fallu préparer la cérémonie d'adieu. J'ai retrouvé de vieilles photos argentiques et diapos de lui aux quatre coins du monde. D'abord en noir et blanc, au temps de sa jeunesse américaine, puis des clichés hectachromes de lui et de ses amis de plus en plus âgés au fil des ans. Je me suis demandé ce qui serait advenu si toutes ces photos avaient été prises à notre époque, celle de la compression des 0 et des 1. Peut-être que les fichiers se seraient corrompus tout seuls, il paraît que les JPEG font ça. Ou que les disques durs sur lesquels ces photos auraient été stockées auraient cessé de fonctionner. Ou pire, que les ports pour les connecter n'auraient plus été les bons. Ou que les clouds, ces fichiers enregistrés en ligne, auraient été supprimés pour non-paiement du forfait mensuel. Ces photos auraient disparu et les souvenirs avec. Quelles traces laissons-nous ? Jusqu'au début du XXIe siècle, on fabriquait de la musique et des images qui laissaient une trace. Bandes magnétiques, pellicules, grains d'argent. Aujourd'hui, certains dissidents du tout numérique continuent, voire recommencent à travailler en analogique. Des hommes et des femmes attachés à des gestes, des sons, des odeurs, un temps de fabrication différent, un temps pour rêver à laisser une trace quelque part, entre le 0 et le 1. On est parti avec l'enregistreur légendaire suisse à bande qui a servi pour faire de la radio et du cinéma pendant si longtemps, aux quatre coins de la France, découvrir ces tentatives magiques.
Tu crois que c'est là ?
Pas le numéro de fixe en fait. J'ai cherché hier sur internet. Non. Va dire à ton maître, on est arrivé. Tu vas gratter à la porte. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive. Première station, le studio Kerouax. C'est chez Wax, la cire sur laquelle on gravait jadis les enregistrements. Kerouax, c'est chez Christophe Chavanon. Installé au milieu de la Bretagne. À Kerouax, on n'enregistre pas sur cire quand même, mais tout sur bande magnétique. Il paraît qu'ici, il n'y a pas d'ordinateur.
Salut, c'est Marie. Arthur.
Enchantée. Allez-y, il y a une petite flaque à l'entrée.
On a eu notre studio avant dans la région lyonnaise. Et nous, on avait envie de partir de Lyon, d'être à la campagne, au bord de la mer. On a cherché, on l'a trouvé sans faire publicité hein, sur le bon coin. Donc on a repris ce bâtiment qui est un ancien pensionnat de garçons. C'est bien. Et puis en visitant voilà, ce bâtiment, on s'est aperçu que l'acoustique, les possibilités d'héberger les groupes, c'était important et intéressant. Donc on a franchi le pas comme ça. Et là, ça fait 4 ans qu'on est à Logévi.
Salut.
Salut.
Et là, il y a une toute nouvelle console que tu viens de finir.
Voilà, c'est une console à lampe de 24 voies qui est basée sur des vieux circuits Philips des années 60. Et on l'a fait avec Maël Bellec et Olivier Payet, deux passionnés d'électronique. Donc ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. J'ai donné un peu mon cahier des charges. J'avais envie que la console se comporte un petit peu comme un ampli guitare, c'est-à-dire avec un gain et un volume. Si on veut faire saturer les tranches, enfin les voix, on peut qu'on puisse le faire en tout cas. Une Reverb EMT-140 à lampe, une Reverb AKG BX-20, une Reverb à ressort, AKG BX-10 à ressort, Mixicon PCM-60, un Reverb analogique,
KL-R060,
un écho à bande Ecolette,
Tube Mixing Desk, Magna 5, G963, RCA-76,
un Revox B77 pour le slapback,
Ampex 351,
et une Echo Chamber
Studer
naturelle,
A80, MK4, Studer
plusieurs microphones de type
deux Trax,
Neumann, RFT,
Revox B77 MK2,
Shure, Altec,
Pathé Marconi, Ondig, cassette, tape machine,
Sennheiser MD421, Sennheiser MD441,
Firewire Motu 24,
Electro Voice R20,
Matrix U61,
Carwax Replica, processeur à lampe à deux canaux, et une console de mixage customisée, 24 voix à lampe. Et après, on se retrouve avec beaucoup de vieilles machines. Pas par fétichisme, mais par amour des vieilles machines et du vieux design. Moi, j'adore le design des années 50, que ce soit pour les voitures ou les. Voilà. Je trouvais que c'était bien fini et surtout construit pour durer. Donc, nous, toutes nos machines, c'est un peu comme une deux chevaux. Quand elle est en panne, on ouvre le capot et on peut facilement changer un condensateur, une capacité, enfin, très simplement. Contrairement à. Aux machines actuelles où il y a eu trop d'obsolescence programmée, entre autres, et c'est plus du jetable. Donc là, on se retrouve avec des machines avec des gros boutons qui facilitent le travail. On a un rapport tactile, réel, avec les machines, où on sent vraiment le son. Quand on tourne un bouton, on sent vraiment ce qui se passe. La taille du bouton induit aussi, psychologiquement aussi, à une sensation de grosseur du son aussi. Ça va un peu de pair. Nous, ce qu'on préfère faire quand même ici, c'est de capter un live, enfin un live avec de la production derrière, mais une énergie en tout cas live, que les musiciens soient prêts quand ils rentrent en studio et qu'ils comptent pas forcément sur de l'édition après, etc. Que ce soit le plus sincère, on va dire, plus honnête possible. Et de capter cette émotion et avec ses qualités et ses défauts. Donc des fois il vaut mieux accepter un morceau qui dure 4 minutes avec 2-3 petites erreurs à l'intérieur mais qui font partie de la musique plutôt que d'essayer d'être absolument parfait et rigoureux dans le placement et qu'au final on se retrouve avec un mixage aseptisé et complètement mécanique et robotique.
Travailler sur les bandes magnétiques, on ne peut pas être seul. Christophe Chavanon a une équipière venue de Lyon avec lui, Marion Leclerc. Elle va ouvrir un magasin de vinyle d'ailleurs à Lokivi-Plougras, le petit village où ils sont installés. Elle lance la machine à bande, rembobine. Elle est essentielle.
Il y a vraiment toutes les cas de figure qui existent, du groupe qui vient ici exprès pour ça, donc qui sait exactement ce que ça implique et qui connaît ça par cœur. voilà, on sent qu'ils ont l'habitude et tout, jusqu'au groupe qui a fantasmé ça comme un truc chouette et puis qui se rend pas compte de la contrainte technique que ça peut représenter, comme le fait que par exemple quand on dit ça tourne, bah ça tourne, mais il faut y aller, on peut pas discuter pendant 1 minute 30, se re-arrêter, se réaccorder, si ça tourne, ça tourne, enfin voilà. Sur les drops, c'est plus compliqué qu'un clic de souris qui découpe et qui va recaler ça tranquillement. Quoi. Là, on efface quoi, ce qu'on a enregistré. Donc. C'est plus risqué et ça, du coup, c'est des contraintes où bah ouais, faut jouer le jeu. Quoi. Donc soit on a un super niveau de dingue en tant que musicien et on rentre la prise comme ça et c'est super, soit on n'a pas un niveau incroyable et à ce moment-là, il faut accepter quand même cette fragilité.
Est-ce qu'on pourrait garder celle-là et en tenter une autre quand même?
Bien sûr. Ouais.
Et puis.
Mm-hmm. On la garde et on en remet une. Ok?
D'accord.
Ouais. Voilà, oui, je pense, c'est mieux.
Quand on sait que la bande tourne, on sait que voilà, c'est pas un ordinateur où on pourra tout refaire. Donc la bande inspire ça, quoi, en fait, l'honnêteté, la manière de jouer. Ça veut dire qu'on fait un choix. On écoute un morceau, on se dit, non, elle est pas bien, on refait par-dessus. Donc on oublie complètement, même des fois, quand on arrive à un stade où le morceau est presque satisfaisant, on va dire. C'est un choix du groupe à se dire, tant pis, on est capable de faire mieux, c'est sûr. Donc là, on y va. Et puis, il y a intérêt de faire mieux, parce que du coup, c'est... Voilà.
Ce qui gêne, Christophe, c'est l'accélération sur l'entrée des freins.
Il faut arriver à faire le deuil de beaucoup de choses, en fait, en analogie. Il faut être toujours dans la créativité, dans l'instant, et savoir rebondir très rapidement.
Et j'ai peur que le coup de frein derrière, il soit un peu...
Évidemment, c'est vraiment une question de jury commune, hein. Que question d'accélération, que ce soit. Deux, trois endroits, en fait,
Ouais.
On est plus ensemble.
We Insist, un groupe de 4 gars, basse, batterie, guitare, un groupe de rock classique, avec Étienne Gaillochet, qui est le batteur-chanteur, très concentré, parce que quand on enregistre sur bande, il faut être très concentré.
On dit qu'on a du temps et d'énergie, on en fait d'autres. Soit on peut faire des drops ou des passages de basse s'il y a besoin. Mais je vois pas de gros merdier rythmique à part quelques mises en place de basse, mais c'est ça.
Ouais, on la garde sous le coup de celle-ci, mais je suis sûr que vous pouvez faire mieux là.
Ouais, je pense aussi. Essayons ça.
Il y a toutes les aiguilles qui...
Les aiguilles, oui.
Là, on regarde quand même. Non
voilà. Quand on enregistre un groupe de rock'n'roll, on aime bien voir que les aiguilles aillent dans la zone rouge, la zone interdite. Voilà. Les convertisseurs numériques, ils font un bruit, ils font comme ça. Ce qu'ils ne peuvent pas encaisser, la bande magnétique peut encaisser des forts niveaux. Après, on se retrouve avec de la compression naturelle, c'est-à-dire que le son devient limité, mais pas distordu. Avant d'atteindre de la distorsion sur la bande, il faut quand même... Faut pousser le volume, quoi. Il y a aussi le fait que quand on enregistre sur bande, les pistes interagissent entre elles, en fait. Il y a toujours un petit peu de... pas forcément du pleurage ou tout ça, mais on a un mixage qui se... Alors c'est des termes, c'est une vulgarisation, mais c'est qui se glue entre eux, ça peut se comprendre comme ça. On a moins d'éléments séparés comme avec un ordinateur où les pistes à chaque fois elles sont vraiment dans leur monde et très séparées des autres, alors que sur la bande on est ça homogénéise le mixage.
Tu peux faire sortir un tout petit peu plus la guitare à l'écoute là?
Bien sûr.
Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est la texture sonore, c'est la compression de la bande, mais le procédé musical, pour moi il ne change pas. C'est la même logique. C'est la logique du groupe en fait. Après, si on fait de la musique improvisée, si on fait vraiment, on cherche parce que ça c'est une musique qui a beaucoup de mise en place, une musique qui est assez écrite. Sur la durée des trucs beaucoup plus longs, et qu'on cherche une ambiance, un esprit, avec beaucoup d'improvisation là, à ce moment-là. Ce qui est le plus dur dans la prise de ce, enfin, la batterie, c'est de toute façon c'est ce qui détermine dans un groupe comme un groupe de rock comme ça, ce qui détermine le son du groupe, c'est l'air qu'il y a dans la batterie. Les guitares, il y a des micros qui sont souvent proches de l'ampli. On peut aussi bien sûr mettre beaucoup d'ambiance dans les guitares, mais ce sera plutôt fait en overheux, ça, donc en overdub. Mais c'est sûr que toute la texture du disque, elle vient du son de la batterie. Et je pense que la bande influe beaucoup sur le son de l'ambiance, plus que sur les trucs sur les instruments de proximité. Pourquoi, comment, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus chaud. C'est plus chaud, mais du coup, l'inquiétude qu'on avait notamment ce matin, c'était sur les aigus, en fait, sur la brillance et la présence. On trouvait qu'on n'est pas habitué aux écoutes ici non plus. On trouvait que ça manquait cruellement de brillance et de présence, et du coup, on a passé un moment à discuter pour essayer de voir si on en avait assez dans la prise, vraiment. Si les micros, ils arrivaient à capter ça, et que donc on a tout de suite vu que en mettant un peu plus de brillance et d'aigu, en équalisant, parce que là tout est droit, hein. Tout est tout droit, tout droit. Donc avec la compression et l'équalisation, je pense qu'on va récupérer ce qui nous manque là, quoi. Mais tout ça c'est aussi vachement psychoacoustique, hein. Il y a énormément de... C'est très difficile de faire le vraiment la distinction entre la réalité scientifique et la psychoacoustique en musique, c'est mystérieux.
Vous avez fait un autre morceau ?
On va essayer d'en faire trois aujourd'hui. Ouais. Donc, après celui-là, il y en a
deux. Dans le rock'n'roll, il y a tellement de choses que ça part d'Elvis Presley, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à Led Zeppelin, en passant par les Beatles ou les Who, ou des choses comme Lee Hazlewood, où il y a des sons. Qui font voyager au final, qui a une dynamique et une manière de faire. Et c'est ce que j'aime à écouter dans ces disques, c'est qu'il y a énormément d'espace et que ça laisse la place à l'auditeur d'aller chercher des détails. Chose qui, à l'heure actuelle, dans les mixages et dans la manière de masteriser, on se retrouve avec tout en frontal. C'est-à-dire que tous les sons sont précis, sortent des enceintes et au final, on se retrouve avec trop d'informations, on entend certes tout, mais de mon point de vue, c'est trop. Trop fort, trop précis. Alors qu'avant, on écoute des vieux disques et on arrive à se plonger, à aller chercher des petits détails. Quand on écoute Pink Floyd, tout ça, on redécouvre à chaque fois le disque. On peut écouter ou des vieux groupes de jazz aussi. Hein. Je ne suis pas focusé sur le rock'n'roll. Hein. C'est laisser la liberté à l'auditeur de se plonger dans la musique, surtout. Et de... Là, on arrivait en fin de bande, je crois. Presque. Et aussi d'arriver à la projection mentale quand on écoute un disque. Des fois, on se dit, ouais, la batterie, elle est vraiment énorme. Alors qu'au final, non. Elle est sous-mixée, elle est derrière, sauf qu'elle est rendue très précise, en fait. Mais c'est la projection mentale. C'est l'auditeur qui se dit, ben, voilà, j'entends la batterie, donc elle est forte, mais en fait... Quand on regarde réellement techniquement.
La bande finie, c'est là sa force. C'est quelque chose de faire un entretien pour la radio avec un magnéto à bande, et la bande qui se termine pendant l'entretien. La bande finie, le numérique permet l'infini. En fabriquant la radio avec un magnéto à bande, il faut penser, il faut anticiper. C'est tout à fait notre façon de penser.
Moi j'adore entendre les trucs qui vont pas sur les disques, enfin les petits ratés, un doigt qui glisse sur une corde qu'on ne devrait pas entendre, ou une note qui est un peu fausse parce qu'elle est jouée un petit canard ou tout ça. Et ça, faut l'accepter, quoi. Si on enregistre sur bande, je veux dire. Alors, quand on est pro analogique, on appelle ça de la vie, quoi. Dans la musique, moi, que j'aime et que je fais, j'aime beaucoup les musiques où il y a pas mal d'accidents, des choses pas bien parfaites et tout ça, donc...
J'ai
jamais quitté l'analogique, mais je suis passé quand même par une période numérique, ouais. Pour m'amuser à faire beaucoup d'éditions et justement aller faire des boucles, enfin faire des choses, même si on peut faire des boucles avec la bande analogique. Hein. Mais bien sûr, oui. Moi, on est quand même d'une génération où il faut savoir vivre avec son temps, mais savoir prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque monde. Donc moi, je ne suis pas là pour faire un combat entre l'analogique ou le numérique. Ce n'est pas du tout le propos, parce qu'il y a des bons côtés dans les deux mondes. En sachant que tous ceux qui ont travaillé sur bande pendant des années depuis le début ont été bien contents quand le numérique est arrivé, parce que voilà, tout ce travail d'édition, enfin de couper les bandes, de tout calibrer, etc., c'était fastidieux. Enfin, c'est un...
Je croyais que c'était une bande qui se dévidait.
Voilà, et non, c'est un petit peu de grêle, j'ai l'impression. Et puis après, on a le temps aussi. La qualité d'enregistrer en analogique, c'est le temps qu'on a entre chaque prise aussi. Le temps de rembobiner, le temps de revenir écouter. On est plus dans la musique déjà, parce qu'on travaille aussi, je cite un peu toutes les qualités, mais qu'on travaille avec ses oreilles. Et quand on fait de la musique, c'est avant tout, le but, c'est d'écouter. Avec un ordinateur, on est souvent influencé par l'image des ondes qu'on voit à l'écran. Et on est plus... nos oreilles travaillent à 50%, quoi, 60%. En analogique, il n'y a que les oreilles et le ressenti réel. Donc,
les road trips avec des cassettes dans le lecteur, ça risque pas de sauter comme les CD. Et on met les cramps. Et c'est une cassette d'été, ces cassettes d'été, ces compiles écrites à la main avec une main d'adolescent qu'on retrouve. Nos mains, notre écriture d'adolescent. Personne ne peut contester que c'est plus charmant, cette écriture d'adolescent avec des petits cœurs qu'une playlist iTunes. Et dans ce tour de France, on se retrouve à Bordeaux chez le musicien David Carroll. David prépare une tournée d'été à cheval avec une scène mobile en forme de conque pour projeter le son acoustique. Chez David, on a donné rendez-vous à DJ Tapetronic qui, comme son nom l'indique, ressuscite les appareils à cassette, les réenchante, les réinvente.
Au départ, je faisais vraiment ça en performance. Après, je suis venu plus sur la scène live sur table et tout ça. Je fais des concerts sous le nom de Tapetronic. Mon vrai nom, c'est Alexis Malbert. Et je fais depuis une quinzaine d'années des instruments que je fabrique moi-même à partir essentiellement de cassettes audio que je transforme, que je modifie pour faire des objets sonores. Et les premières cassettes que j'ai inventées, c'est ce que j'appelle la scratchette, donc la cassette pour faire du scratch. Donc là, je modifie aussi le magnéto de base, le magnétophone, j'enlève des éléments mécaniques et tout. Et ensuite, je découpe aussi le plastique des cassettes. Par exemple, normalement, il y a des protections de ça. Là, je les enlève et je préenregistre moi-même les sons qui m'intéressent sur bande, que je fixe, et je peux les lire à la main comme ça. Voilà, là, je vais avoir un son très limité sur la cassette, mais quand je vais être en concert, comme elles sont toutes différentes ou elles ont des couleurs différentes, je vais avoir des repères en fait physiques. C'est-à-dire que le but du jeu aussi, c'est d'avoir manipulé des objets, quoi. D'avoir quelque chose de... Parce que étant à la base plutôt plasticien que musicien, ce qui m'intéressait, c'était de faire des performances en manipulation d'objets, quoi. Vraiment. Donc voilà, donc je vais... toute une gamme de scratchettes. Donc là.
Je pense qu'il y a même peut-être plus à faire dans le côté plastique à amener dans la musique que l'inverse. Parce que finalement, le milieu des arts plastiques, c'est ouvert à tellement toutes sortes de médias, de médiums, que bon, on ne sait plus trop où donner de la tête finalement.
Et ensuite, je me suis intéressé à tout ce qui pouvait produire du son sans la bande, c'est-à-dire tout ce qui pouvait produire des champs magnétiques, quoi. Donc j'utilise pas mal tout ce qui est moteur, aimant, vibreur, des appareils de différentes sortes que je vais détourner. Et essayer d'intégrer dans les cassettes. Après, c'est du custom d'objets. Là, par exemple, c'est une petite dynamo. Voilà, il y a différentes sortes. C'est une petite nuance. Ça, par exemple, m'en sert pour lire des tickets de train SNCF. Donc là, il y a une bande magnétique. Et là, ce que j'ai fait, en fait, la tête de lecture qui est d'habitude à l'intérieur, j'ai découpé, je l'ai fait sortir à l'extérieur. Là, elle est fixée, elle ne bouge pas. Je peux vraiment servir de lecteur comme ça. Ça, c'est vraiment le son produit par la bombatique qui est sur le ticket de train, quoi. Qui est vraiment... que j'ai pas transformé, quoi. Qui est vraiment... Avant de les démonter, de les découper, les percer et compagnie, les cassettes finalement, je travaillais beaucoup avec la bande, quoi, avant tout, quoi. Donc j'ai fait des installations en faisant par exemple sortir les bandes magnétiques des cassettes, et j'ai installé des poulies plantées sur des tables ou sur les murs comme ça, et je faisais passer les bandes qui circulaient en fait dans les poulies comme ça. Donc je créais des dessins et tout ça. Alors, ça, je faisais ça quand j'étais au Beaux-Arts, quoi. Et ensuite j'ai fait aussi des boucles, c'est en prenant juste des... C'est comme ça que j'ai commencé à composer mes morceaux de musique un peu plus dansants et tout. C'est-à-dire en faisant des boucles, je prenais juste des bouts de bande magnétique et je les collais bout à bout avec un bout de scotch et je les remettais dans la cassette et ça faisait des bandes sans fin en fait, des boucles comme des samples en fait. Et voilà, au départ, je les faisais de manière hasardeuse comme ça. Donc c'est ça que je composais mes morceaux avec ça, quoi. Par exemple. Et mais bon, le problème de la bande, c'est que c'est quand même un support fragile, surtout sur cassette. J'aimais bien dans la cassette aussi, c'était le côté un peu pop du truc. Voilà, après, il y a le côté magnétique, finalement, du support magnétique. Je le travaille aussi avec les champs magnétiques, vraiment, avec les aimants, tout ce qui peut produire des champs magnétiques. Finalement, je dépasse la bande, quoi. C'est, on rentre vraiment dans la physique, quoi. Ouais, c'est vrai, souvent, si c'est un fétichiste de la cassette, ça l'est forcément un peu devenu avec le temps, parce que bon, c'est un peu. Il y a une affinité quand même à force avec les années. Mais sinon, au départ, c'est vraiment pas ça. Déjà, au départ, la cassette, quand j'ai commencé à les détourner, à les utiliser, c'était dans les années 90, et à cette époque-là, tout le monde les utilisait. Il n'y a pas le MP3 encore. Le CD, même le CD, tout le monde n'en avait pas. Enfin, les ordinateurs, en tout cas, tout le monde n'en avait pas. Les gens se faisaient encore des mixtapes, quoi, et on se les échangeait et tout ça. Donc, pour moi, à l'époque, c'était pas de la nostalgie, c'était le présent. Elle, je l'ai appelée la L-cassette. Donc, la cassette de l'enfer, parce que en fait, c'est une cassette qui permet de produire des grosses basses avec juste un aimant que je fais tourner à la main. Devant la tête de lecture, donc là il n'y a pas de bande magnétique, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, c'est juste je le fais tourner à la main. Donc là le son il sort sur un petit magnéto, mais normalement en live, quand je sais brancher sur une grosse sono, ça peut vraiment envoyer des grosses basses, même des fois ça peut descendre vraiment dans des sub-basses, qui peuvent être assez dangereuses, et une fois ça m'est arrivé, même pour l'anecdote, faire des balances sur scène, et il y avait un autre groupe qui était installé sur une grosse scène où il y avait des caissons de basse installés sous la scène, Et j'ai fait juste comme ça, et tous les instruments sont tombés sur scène. Du coup, depuis, je fais gaffe quand je fais les balances, que j'arrive avec ça. Je teste pas ça en premier. Je suis pas du tout fermé au numérique ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, c'est ma démarche, c'est mon truc. C'est bien d'utiliser les outils qu'on invente encore aujourd'hui, mais c'est bien aussi d'utiliser les outils d'hier, de toutes les époques finalement, et de se les réapproprier. Parce que puis, la manière dont se les réapproprie aujourd'hui, dans le temps présent, on n'en fait pas forcément la même chose qu'on en faisait il y a 10 ou 20 ans. On le fait avec un autre regard, avec un contexte différent. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ensuite, ça c'est une de mes préférées, même quand je fais une performance qui fait son petit effet. Si j'arrive à la... un problème. Effectivement, je n'ai pas utilisé. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui est coincé dedans. Bon, je zappe parce que ça tourne. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un geste. Finalement, c'est presque chorégraphique dans le sens où je crée une sorte de performance des mains, du geste, du regard, enfin des sens comme ça, où je suis actif à manipuler les objets, les cassettes, transformer. La forme fait le geste finalement. J'appelle ça les QR codes. L'accident, disons que c'est un des mots clés finalement de ma démarche, quoi, parce que ça fait partie vraiment de l'histoire de tout ce que je fais, quoi, finalement, parce que tout se passe par les accidents, finalement. Tout ce que j'ai inventé, c'est toujours tout ce que j'ai trouvé, c'est toujours été par accident, en expérimentant, en confrontant plusieurs choses, en démontant les appareils, on branche, ça marche pas, ça marche, puis on se pose des questions à partir de quelque chose qui marche ou qui peut éventuellement marcher. On fait des essais, on fait des tests, on expérimente, quoi, c'est l'expérimentation. Et finalement, l'expérimentation, c'est très lié à l'accident, quoi, quelle qu'elle soit, l'expérimentation.
D'accord, maintenant tu branches le câble de la platine laser simplement sur la sortie auxiliaire.
Oh, il y a plein de trous là-dedans, moi je comprends pas.
Et j'en joue finalement tout ce que mes concerts qui finalement sont des compositions, parce que je compose, je construis tout ça, mais je n'assume pas l'improvisation, c'est parce que je joue, finalement, je prépare, en fait, les accidents, quoi. Bah, des fois, on est tenté hein, par le côté mystique, c'est vrai. En plus, vivant au fin fond du Limousin, tu sais, il y a plein d'histoires de sorcellerie là-bas. Alors, faut se méfier. Hein. Faut se méfier de Neptronique. Hein.
s'il n'était pas mort? Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, la destruction prématurée? La destruction prématurée, toute épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le Horla. Après l'homme, le Horla!
Un de mes films préférés, c'est l'adaptation du Horla de Jean-Daniel Paulet, tourné en 1966. Dans ce film où le Horla, esprit frappeur, frappe dans toute la maison, Laurent Tertieff raconte son chemin vers la folie, enregistre son journal intime sur un magnétophone UR. Il rembobine, se réécoute, danse, est possédé. Et à la fin, quand le Horla a vaincu, le magnétophone tourne, sans son propriétaire, dans une petite barque jaune au milieu de l'immensité bleue.
Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Captain Le Bourdonnec and all his crew, we would like to welcome you.
Donc ce bateau, il est assez génial parce qu'il passe le long des côtes bretonnes. On est parti d'ici, de Roscoff, que par là. Et on va longer la côte, on va voir l'île Vierge, le phare de l'île Vierge, qui est un des plus grands phares bretons. Ouaf. Ensuite, on passe, généralement, il passe là, ici, au ras du Conquet. Et au ras de, comment dirais-je, l'entrée du goulet de Brest. Ensuite, on va passer devant la pointe du Raz. C'est assez génial. Parfois, il passe près de Ouessant. Alors, on longe Ouessant. Puis après, on ne voit plus rien parce que c'est l'après-midi, la soirée. Et on va dormir et on arrive à Bilbao le lendemain matin.
On se retrouve sur le ferry mensuel qui relie Roscoff à Bilbao en Espagne en une journée et une nuit. En ce mois de février, les tempêtes soufflent. La mer est démontée. Dans la cabine 7008, Clément Deuve a un projet un peu particulier. Il a réservé son voyage pour mener une expérience. Il s'agit de filmer, développer et projeter plusieurs films en Super 8 noir et blanc le temps du voyage. Les sauts de chimie et accessoires empêchent de s'asseoir dans la cabine. Alors on sort dehors, les prises de vue commencent dès le départ sur le bastingage. Il faut aller vite, car développer, ça met du temps.
Ok, donc là on est sur on a une vision latérale du continent qui est assez belle, avec une percée de soleil qui vient baigner tout ça. Et je voudrais faire un plan à travers la vitre, à partir d'un flou et de revenir sur la mise au point des gouttes. J'imagine intercaler avec le regard d'une femme ensuite. Là je prépare mon plan, je le fais à vide. Je le fais à vide et je vais le shooter. On est pas mal. Bien, là. Ouais.
À mesure qu'on avance, l'océan fait pencher tout le navire. La foule des retraités anglais qui peuplent ce bateau se sont retirés vers les salons intérieurs où une série d'animations sont proposées. Salsa, magicien, music hall. Clément Deuve, lui, préfère rester sur le pont. Il a trouvé une passagère qui veut bien jouer dans son film Ciné-Voyage. L'histoire commence à se dessiner.
J'ai retrouvé la femme que j'avais aperçue tout à l'heure. Et j'aimerais faire un plan à travers la vitre sur le paysage, sur le littoral, le flou à net et un retour sur le contre-sol. notre champ, avec le regard de cette femme, et qui se floute ensuite, qui se perd. On va répéter ça. C'est bon. Je vais faire ce premier plan. Mucho, regarde au loin, le visage, le regard un peu perdu. On y va. Regarde bien au loin. Situation qui t'échappe, qui s'enfuit. Révélation organique, matière, fragilité, lumière. Fin du deuxième film. Film numéro 2. Plan extérieur. Il y a une tentative de champ contre champ entre l'immensité du paysage, les berges, les carreaux inondés, et le regard d'une femme qui se perd et se retrouve dans une netteté. On recharge. Donc grande fuyante du couloir, si tu peux te mettre tout au bout, juste en silhouette, sans rien que ton manteau. Et je vais m'approcher de toi, et à ce moment-là, tu échappes au plan, au cadre, tu fuis. On va se tenter ça. Alors, tu te mets face à moi comme ça, les bras ballants, et je vais avancer, tu attends un peu, et plus j'avance, plus je m'approche de toi et tu t'en vas. Tu peux même partir de manière un peu brusque. Stop. Stop. Qu'il soit bon ou non, de concentration, de rapport, oui, au vivant, de ça, oui, il y a une manifestation, une tentative de restituer une mémoire, le temps que ça prendra pour que ça existe ou non.
On se la refait, on fait une brûlure encore plus près. Encore, cours, cours. Ça y est, on l'a. Bravo.
Scénette d'une inconnue au fond d'un couloir qu'on aimerait rattraper, qui nous échappe encore. C'est tout pour ce film. On n'a pas une contre-lumière, il faudrait une torche pour dégager, j'en ai dans mon sac. Mais... The light on your hands. Par-dessus. Arthur, si tu peux juste faire une douche. Ouais. Okay. Hop. C'est.
Okay. Allez. Sorry.
You tell me when.
Yeah, okay.
That's great.
On remonte un petit peu, Arthur. Ouais.
Le temps presse. Il faudra encore développer, right. Laver et right. Sécher les films.
Right.
Mais pour l'instant, de nouveaux participants se présentent pour jouer dans le film. Ce sont les jeunes animateurs, anglais, à peine majeurs, qui parcourent les mers. Ruben, Lucy et le magicien Alex.
Okay.
Alex nous fait un tour de cartes. Ses gestes de prestidigitateur me font penser à ceux de Clément quand il filme. Et la magie du magicien annonce la révélation de la pellicule à venir.
Yeah. Allez.
On monte un peu Arthur, je suis sûr de... Ok. Swatting.
Okay,
great.
But I think the appearing card is a nice cut away.
Great.
Oh, there's nothing else really more I can do.
No,
just
that's
cut away
great.
For you.
Avec le grain presque, avec les sels, avec la chimie de cette matière de pellicule. Il me semble la danse assez cohérente, la tentative assez belle, assez jouissive, voire.
Et comment tu danses alors? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment tu joues avec? Qu'est-ce que tu peux faire en fait?
Tu peux pousser, tu peux aller travailler, t'enfoncer dans des pénombres, des basses lumières, des choses assez... qui a priori à l'œil ne serait pas lisible, et puis pousser de l'expérience que j'ai en photographie argentique, je réalise le même traitement pour les films Super 8, et ça me permet de pousser le temps d'exposition très longtemps et de faire éclater la matière ou de faire monter des choses que l'objet lui-même, que la lentille n'aurait pas vu, mais c'est passé à travers le verre malgré tout.
Et ça ressemble à quoi alors? Quelqu'un qui n'aurait pas vu tes films, et ça pourrait ressembler à quoi cette matière quand elle est poussée, explosée?
Ça provoque et ça donne une matière assez contrastée, fourmillante, presque biologique, organique, microscopique, un peu des éléments, des cellules comme ça. Oui, le grain est magnifique et n'est jamais le même. Pas une information précise en fait.
Prêt?
Bon, attends, je vais couper la lumière.
Ouais. Parfait. Il y a une petite rainure là-bas quand même qui est gênante un peu à gauche. Moi, c'est pas très. Il y a peu de chances que ça vienne jusqu'ici.
Attends, je vais la. Tant qu'à
si
faire,
tu peux.
Vas-y,
rallume. Faut juste tirer là un petit peu sur le côté. On est bon.
Attends. Je vais éteindre la lumière. Okay.
C'est parti.
Dès que je sens que ça tire, je te la passe.
Bah, il faut que tu anticipes en fait, que j'ai pas de tension.
Il faut pas que tu aies de tension.
Idéalement.
Donc là, j'y vais. Là.
Voilà, tu vas. Là. Okay. Et à chaque fois, on se donne une avance.
On se retrouve au 7e étage du navire, dans la cabine 7008. Clément prépare son attirail d'artisan de cinéma. Il sort les spires en plastique dans lesquelles on va placer la pellicule qu'on va tirer de ses boîtes. C'est une opération délicate, faite dans le noir, sous peine d'exposer la pellicule.
Et comment tu fais ça tout seul en fait?
Non, tu peux pas le faire tout seul. Enfin, tu pourrais, ce qu'il faudrait, c'est fabriquer une. Faudrait que le film soit mis dans le noir sur un axe et qu'il se dévide en même temps que je le tire dessus. Bon, il y a moyen de bricoler quelque chose comme ça. Habituellement, je le fais à quatre mains. On va développer beaucoup comme ça.
Pour faire des Super 8, il faut avoir des bons amis.
Ouais, il faut pas être tout seul. Si tu peux tout faire tout seul.
Ah, il y a un truc qui est coincé là.
Tu penses que t'es au bout là?
Ouais.
Si tu tires bien là?
Ouais.
Ok, bah, vas-y, craque-le.
Je tire d'un coup sec là.
C'est un peu costaud pas. On se fait un développement lumière du jour, pleine mer, assez blanc. On va se faire un développement de 7 minutes. Le révélateur.
Bon, là, tu lances le chrono.
Voilà, je vais lancer le chrono.
Okay.
On pourra se rajouter le temps du chargement. En fait. Bien les deux spires, je fais au moins une première minute.
surtout de la bande et de l'argentique, qui ont l'occasion de comparer leurs pratiques avec des pratiques numériques, disent souvent que le travail en analogue provoque une pensée différente, plus totale, plus liée à un savoir-faire manuel, comme pourrait l'être un travail de jardinier, de tanneur, de tailleur, et d'une certaine façon empêche le mental de faire filtre et laisse l'intuition guider la pensée. En attendant, il faut sécher ses pellicules dans la cabine 7008. Sur le bateau, il est 2h du matin. Les allées sont désertes et Clément, le cinéaste, est rejoint par les animateurs et un couple de retraités noctambules enthousiastes de voir ces images super vite exotiques. Tous ensemble, ils ont toutes les peines du monde à trouver une prise pour le projecteur et moyen de baisser la lumière blafarde des plafonniers qui pourrait empêcher de voir l'image du film.
Ok. T'es prêt?
Ouais.
Les deux retraités et les trois animateurs ont les yeux écarquillés devant les images en négatif de leur navire projeté sur un mur. L'écume est toute noire, comme une bile mauvaise. Les yeux de la passagère, filmés en gros plan, sont inquiétants. Clément et les spectateurs d'un soir s'échangent les emails. Ces derniers aimeraient bien recevoir une version numérique du film.
Magnétisé avec Christophe Chavanon, Étienne Gaillochet et le groupe Winsist, Marion Leclerc, Alexis Langlois, Clément Deuve. Merci à David Carole et Gaël Teicher. Extrait du Horla de Jean-Daniel Paulet. Prise de son et mixage, Claude Niort et Alain Joubert. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Une émission d'Arthur Bégilette, avec le soutien de la SCAM Brouillon d'un rêve.
Inès De Bruyne et Pierrick Ponsigny me font signe. Sur le Mac 3, la bande vient de s'arrêter. Demain, 23h, notre nuit sera encore magnétique avec des braqueurs, des abominables, des fantômes. C'est le moment d'ouvrir les portes des nuits de France Culture avec Philippe Garbi.